une histoire particulière. En 1946, la maison d'édition du Scorpion rêve d'un best-seller à la hauteur du livre d'Henri Miller, Tropique du cancer. Boris Vian a besoin d'argent et son roman L'écume des jours ne se porte pas très bien. C'est l'histoire d'un pari fou, celui d'écrire ce best-seller pour exaucer le rêve de Jean Daluin et de l'écrire en 10 jours. Résultat, c'est un roman noir qui dénonce le racisme, un récit cru où la sexualité, violente, tient une place centrale. Boris Vian décide de faire croire que le livre est l'œuvre d'un romancier américain à qui il invente un nom, Vernon Sullivan. « J'irai cracher sur vos tombes » paraît le 21 novembre 1946, mais c'est en 1947 que le livre devient un succès. Pourtant, Boris Vian s'apprête à risquer gros. La suite, maintenant, par Hélène Delis et Véronique Samouilov.
En réalité, « J'irai cracher sur vos tombes », c'est quoi ? C'est un éditeur qui s'appelle Jean Daluin, qui habite près du vieux marché Saint-Germain, et qui est complètement ruiné, qui ne fait pas un sou, qui n'a rien à se mettre sous son best-seller.
Archivina, Alain Vian.
Et qui dit à Boris, est-ce que tu pourrais me pondre une vacherie du genre le tropique du cancer, hein? Bon, Miller, qui est un auteur qui fait des millions de dollars aux États-Unis. Et Boris, qui aime bien Daluin, lui dit « Écoute, bon, tu auras ça sous quinzaine. » Et il file ça à Daluin, et la première année où le truc sort, ça fait, je me souviens parfaitement du chiffre, ça fait 15 millions de francs de l'époque. C'est-à-dire, je sais pas, moi je dirais 15 millions nouveaux. Voilà, c'est monstrueux. Et il dit, il a cette superbe phrase, il dit à ses copains, il dit « C'est du sale pognon, il faut le boire. » Donc il y a un abonnement avec son caviste rue du Faubourg-Poissonnière qui régulièrement monte 12-24 bouteilles de visco, et alors tout le monde vient picoler chez lui, y compris pas picoler vraiment, mais enfin je rencontre moi chez lui toute l'équipe, Camus, Zazie dans le métro, là, Keno, enfin tous ces gens. Il a un peu table ouverte et... on vit dans l'opulence, parce que vraiment, j'irai cracher sur vos tombes, ça fait un fric dément.
Docteur Vian et Mr Sullivan, l'affaire J'irai cracher sur vos tombes. Le roman maudit. Un documentaire d'Hélène Delis et Véronique Samouilov. En cherchant à faire interdire J'irai cracher sur vos tombes, Dan Parker et son cartel d'action sociale et morale font exploser les ventes du livre, qui devient dès le début de l'année 1947 le best-seller que Jean Daluin et Boris Vian, alias Vernon Sullivan, cherchaient à produire. La même année, paraissent dans l'indifférence générale L'écume des jours et L'automne à Pékin. Boris Vian est comme dépassé par son double, Vernon Sullivan, sous le nom duquel il fera paraître 3 autres romans, écrits dans la même urgence et le même goût pour la provocation. Mais c'est J'irai cracher sur vos tombes et son titre blasphématoire qui écrase tous les autres, et qui poursuivra Boris Vian jusqu'au jour de sa mort.
À quel moment est-ce que ce magnifique canular va tourner, peut-être pas tout de suite au cauchemar, mais en tout cas, va tourner au vinaigre?
Non, mais ça tourne très vite, hein, parce que voilà, au mois de mars, il y a un représentant de commerce dans un hôtel. Un fait divers affreux, quoi.
En 47, il se passe quelque chose de terrible, c'est que est retrouvé une femme étranglée dans une chambre d'hôtel du côté de la gare Montparnasse, et celui qui l'a étranglée, c'est-à-dire son amant, laisse J'irai cracher sur vos tombes grand ouvert.
C'est l'apothéose absolue, puisque Marie-Anne Masson se fait étrangler dans un hôtel borgne de Montparnasse par Edmond Rouget.
Et puis sur la table ou sur le buffet, enfin le livre de Boris Vian ouvert sur la page du crime sadique de J'irai cracher sur vos tombes.
Elle était là, les yeux fermés, allongée par terre, sa jupe relevée jusqu'au ventre. J'ai senti encore la chose qui venait le long de mon dos, et ma main s'est refermée sur sa gorge, sans que je puisse m'en empêcher. C'est venu. C'était si fort que je l'ai lâché et que je me suis presque mis debout. Elle avait déjà la figure bleue, mais elle ne bougeait pas. Elle s'était laissée étrangler sans rien faire. Elle devait respirer encore. J'ai pris le revolver de Lou dans ma poche et je lui ai tiré 2 balles dans le cou, presque à bout portant. Le sang s'est mis à gicler à gros bouillons, lentement, par saccades, avec un bruit humide. De ses yeux, on voyait juste une ligne blanche à travers ses paupières. Elle a eu une espèce de contraction et je crois qu'elle est morte à ce moment-là. Je l'ai retournée pour ne plus voir sa figure. Et pendant qu'elle était encore chaude, je lui ai fait ce que je lui avais fait déjà dans sa chambre.
Christelle Gonzalo, vous parlez de ce fait divers comme si c'était presque une fiction, mais là on parle de choses qui se sont réellement passées, hein, d'un fait divers sordide en fait, d'un meurtre, d'un assassinat.
C'est absolument un fait divers sordide, le terme est bien choisi. C'est une histoire quasiment fictionnelle, tellement elle sert la renommée et le succès de J'irai cracher sur vos tombes, et tellement la presse s'empare de ce fait divers pour taxer Boris Vian d'assassin par procuration, de pornographe, il se fait vraiment insulter. La presse de l'époque est pas tendre et aime beaucoup ce genre d'anecdotes, donc ça sert la publicité du livre, mais c'est quand même des coups qui peuvent faire mal.
Aussitôt, la presse, alors là, presse un peu caniveau, se déchaîne.
Claire Julliard.
Avec des titres extrêmement emphatiques. Et on commence à pointer la responsabilité de l'écrivain. Là, ça devient pas très drôle. Bon.
C'est par dizaines, hein, les articles qui paraissent à ce moment-là. Tous les journaux de pro de loin.
Nicole Berthold.
Commence à attaquer Boris Vian, c'est tout juste s'il ne le traite pas d'assassin. Et d'ailleurs, il va écrire deux articles. Il va en écrire un qui s'appellera « Je ne suis pas un assassin ». Et il va en écrire un autre qui s'appelle « Je ne suis pas un obsédé sexuel ». Voilà.
Alors, les titres des journaux, c'est ça qui était... Moi, ça, j'adore, parce que ça restitue une époque comme ça. La presse était extrêmement mélodramatique. Hein. Bon, en plus, c'est France Dimanche et tout. Sa main se resserra sur le cou de sa victime. Boris Vian, assassin par procuration, etc. Enfin, c'est glaçant, quoi. Bon, alors, il va plaider l'irresponsabilité de l'auteur. Mais enfin, je pense qu'il est quand même atteint. Enfin, je pense, oui, il est atteint, c'est évident. Après, c'est quelque chose qui va le poursuivre. Ça a commencé à lui porter un peu malheur. Ouais, c'est une auto-malédiction, mais enfin, ce titre va porter malheur. Parce qu'il aurait dû laisser tomber assez vite. C'est ça aussi, il aurait dû s'arrêter là.
Comment ça, s'arrêter là?
Eh bien, c'est-à-dire s'arrêter à gérer, cracher, puis oublier, puis on reprend le vrai Boris Vian.
Est-ce que, au fond, Boris Vian n'a pas très vite envie d'être démasqué, n'a pas très vite envie qu'on sache que la créature Vernon Sullivan, en fait, c'est lui?
Moi, je crois qu'au contraire, il voudrait tellement être un menteur et le plus longtemps possible.
François Roulman.
Quand il écrit les chroniques du menteur au temps moderne, c'est plutôt pour donner un petit peu d'excitation à ces chroniques, de changer un peu la vision très sérieuse des temps modernes. Et il y croit. Or, on l'arrête très vite. Le problème, c'est qu'au bout de deux chroniques, il commence à attaquer la rédaction. Un peu comme dans l'écume des jours d'ailleurs, hein. Il attaque Jean Solpart, la duchesse de Beauvoir, et même dans les temps modernes, il attaque la rédaction des temps modernes. Bon, il aime être menteur, à mon avis. Il veut pas du tout se faire reconnaître.
Qui est le véritable soutien inconditionnel de Boris Vian pendant cette période-là? C'est Raymond Queneau quand même.
Ah hein, oui, alors. Il s'est fait un ami, ça c'est un ami qui est plus âgé que lui et qui le vénère en fait, c'est Raymond Queneau qui édite Vers Coquin chez Gallimard. Il se lie vraiment d'amitié et Queneau est quand même quelqu'un de très fin et perspicace et au cours de leur promenade il lui dit « bon c'est toi ». Et Boris Vian dit « non, il dit « écoute c'est toi ». Il dit « écoute c'est vraiment drôle, mais me dis pas que c'est pas toi ». Bon, donc c'est...
Mais Boris Vian tient bon?
Oui, il tient bon, mais enfin, bon.
Alors justement, revenons, on est en février 1947. Jean Dalluin et Boris Vian sont sous le coup de procès, initié par Daniel Parker.
Oui, c'est ça.
Quelle est la première réaction de Boris Vian? Je crois qu'il va décider de traduire lui-même en anglais le roman qu'il a.
Il est un peu acculé à ça, parce qu'on lui demande, quand il y a une enquête qui est ouverte, tout le monde s'y met, la sûreté, la mondaine, le truc. Bon. Et on lui demande le manuscrit original. Donc, il est obligé de traduire en anglais son propre manuscrit.
Vian va finir par avouer qu'il est Vernon Sullivan, mais en fait, il l'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire un pastiche d'un roman qui, de toute façon, n'existait pas. Et il sera passé par une phase extraordinaire, dont on parle peut-être pas assez. C'est la refausse traduction de la fausse traduction en anglais. C'est-à-dire que « J'irai cracher sur vos tombes » redevient « I shall spit on your graves » et que c'est entièrement écrit en anglais et publié à Paris, à Vendôme Press. Et c'est la traduction en anglais d'un roman qui était censé être traduit de l'américain.
Et il fait ça très vite. On lui demande de faire venir l'auteur. Il dit qu'il va voir s'il peut. Enfin, il est obligé de raconter n'importe quoi tout le temps.
Et puis, Sullivan a eu son existence propre. Vernon Sullivan, c'est un écrivain américain que tout le monde peut rencontrer à Saint-Germain-des-Prés à une heure bien particulière, un 32 février à 25h46, qui est toujours de passage à Paris de façon très rapide. Il a beaucoup de problèmes aux États-Unis, il doit sûrement être alcoolique et obsédé sexuel, mais il n'empêche que ce n'est pas Boris Vian qui n'est que son traducteur.
Sur ses carnets, on trouve des « en parler à Sullivan », des choses comme ça. Ça paraît bizarre, on se dit « devient fou ». Non, je pense qu'il pensait que ses carnets allaient être saisis. Bon.
Daniel Parker n'a toujours pas abandonné ses poursuites. Aïe. Je crois qu'il va réussir au final à faire interdire le roman en 49, c'est ça ?
Boris est sauvé par le gong parce qu'il y a une loi d'amnistie. Je crois que c'est en 47. Il y a un nouveau président, c'est Vincent Auriol. Ouf, voilà. Il échappe à ça, on oublie, on passe à autre chose. Et puis, Daniel Parker revient en scène. Daniel Parker persiste et signe pour reprendre un peu le côté mélodramatique des titres de l'époque. Et il revient à la charge. Et cette fois, ils y sont assignés à comparaître, lui et l'éditeur.
Boris Vian va être condamné à 15 jours de prison. Bon, il sera aussitôt amnistié.
Oui, bon, ça c'est...
Mais cette fois-ci, effectivement, ils sont condamnés.
Et ils ont une amende.
Oui. Et le livre est interdit.
De toute façon, ils en ont quand même vendu beaucoup. Le livre est interdit. C'est ce que voulait Daniel Parker.
Qui était Daniel Parker, Christelle Gonzalo?
Daniel Parker avait déjà dirigé une ligue de moralité qui avait engendré la loi de 1939 sur la protection de la littérature pour la jeunesse. Et c'était un protestant fervent défenseur de tout un tas de choses morales qui ont fait que par un concours de circonstances de l'après-guerre, le combat de Daniel Parker, de cette ligue, embrasse le combat des communistes contre les États-Unis. Il se retrouve avec les mêmes arguments et l'ennemi commun américain qui va faire interdire Tarzan, qui va faire beaucoup de problèmes et de publicité à J'irai cracher sur vos tombes.
Tout ce qui est procès, Ligue d'action morale, Daniel Parker, tout ça, c'est assez terrible pour Boris Vian, parce que il y a eu ce scandale d'Anne-Marie Masson et de l'hôtel à Montparnasse qui est réel, et en fait c'est Vernon Sullivan qui est en cause. Ce n'est pas encore Boris Vian à ce moment-là. Mais le piège se referme sur lui, assez rapidement.
Sur Boris Vian.
Exactement. Sur le traducteur, puisque c'est le seul interlocuteur. Donc, le piège se referme, il passe par cette fameuse fausse traduction à l'envers pour essayer de se déculpabiliser, en quelque sorte. Bon, ça ne suffit pas. Et donc, ça le poursuit. Pendant ce temps-là, l'argent rentre. Là, je voudrais vous donner des chiffres, parce que j'ai un document original du 30 novembre 1950, ce qu'on appelle une situation d'auteur chez un éditeur. Et concernant « J'irai cracher sur vos tombes », on en est à 122 000 exemplaires tirés et 110 000 vendus, comme quoi il y avait une clientèle pour ça, que ce soit Vian, Sullivan, tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, ça a quand même rapporté à peu près 2 500 000 francs. Ce qui, à l'époque, est loin d'être une petite somme, puisque, si je me souviens bien, Vian, en tant qu'ingénieur, doit gagner des petites centaines de mille francs par an. Donc ça représente plusieurs années d'un salaire d'ingénieur. C'est un peu facile de dire ça, parce qu'évidemment, normalement, il y aurait les impôts qui viennent là-dessus, puis Vian oublie assez régulièrement de payer ses impôts. Il y a pas mal de choses qui auraient pu faire qu'il aurait mis de l'argent de côté, il a manifestement tout dépensé. En tout cas, il a aussi intérêt à passer à travers les gouttes, parce que si il est condamné avec son éditeur à payer des amendes, c'est mal barré pour lui. Donc Boris est preneur et il a tout à fait intérêt à ne pas avouer tout de suite et à faire tout ce qu'on veut comme ce qu'on appellerait du buzz aujourd'hui.
De toute façon, toute création littéraire, elle engage son créateur parfois plus loin qu'il peut l'imaginer. On ne sait pas ce qu'on fait. On n'imagine pas les conséquences. Lui, il a écrit ça, c'était marrant. Et il avait 26 ans aussi. On oublie, hein. Il était très jeune. Et puis aussi, son tempérament, il y avait une sorte d'avidité, de goût de vivre, et il faisait beaucoup de choses. Il écrit des romans, il joue de la trompette, il travaille à l'office du papier. Il fait 36 000 choses, comme toujours, parce que c'était quelqu'un qui se savait condamné, qui était malade depuis l'enfance, qui disait toujours, de toute façon, moi je suis pressé, je mourrai à 40 ans. Donc tous les gens qui l'ont vu disent, on le voyait passer toujours en trombe et il disait, je suis pressé, quoi.
Il veut pas du tout se faire reconnaître. Il préfère être à la tête d'un certain nombre d'hétéronomes et d'anagrammes et tout ce qu'on veut, qui, quelque part, protège Boris Vian, l'auteur de L'écume des jours, de L'automne à Pékin, de L'herbe rouge, de L'arrache-cœur, et être un grand écrivain.
Tous ces romans qui, à l'époque, ont été quand même écrasés par l'affaire « J'irai cracher sur vos tombes ».
C'est même pas écrasé, ça les a tués dans l'œuf. Quand J'irai cracher atteint les 120 000 exemplaires, il y en a pas 1000 ou 2000 qui sont vendus de L'écume des jours, pardon, qui sont vendus par Gallimard. Quand sort L'automne à Pékin aux éditions du Scorpion, à peu près 6 mois après J'irai cracher sur vos tombes, ça passe totalement inaperçu. L'herbe rouge en 50, pourtant on lui fait de la publicité dans les journaux, ça ne sort même pas de chez l'éditeur. Manifestement, lui-même disait qu'il savait plus où était son propre exemplaire. Donc J'irai cracher. Et les autres Sullivan, quand même, j'insiste, parce que 4 Sullivan, c'est pas par hasard, c'est qu'il y avait une manne et que on pouvait entretenir ça. On a entretenu ça jusqu'en juin 50. Donc entre novembre 46 et juin 50, il y a des Sullivan, il y en a qui sont interdits, mais il y en a d'autres qui sont là, qui partent dans la science-fiction comme « Et on tuera tous les affreux ». Et à côté de ça, L'arrache-cœur, au début 53, il paraît 5 jours avant, ou après, j'ai un doute tout d'un coup, un certain attrape-cœur de Salinger en première édition française. Oui, oui, ça c'est des choses qu'on a complètement oubliées. Manque de peau, quoi. Enfin, ça a jamais bien marché, sa littérature. Il lui-même disait, ça suffit, personne veut de mes histoires, je voulais être un écrivain, donc je passe à autre chose.
De quelle manière J'irai cracher sur vos tombes est aussi, pour peut-être pour Boris Vian, et là je parle bien de Boris Vian, une forme d'exutoire?
On peut trouver qu'il met dans J'irai cracher tout le réalisme qu'il n'y a pas dans les romans qui signent par son nom. Il n'y a absolument pas d'imagination, il n'y a pas d'introspection dans J'irai cracher sur vos tombes. Pas de magie, les personnages disent et font, pensent, disent puis font. Tout est décrit par le menu, ce qui rend la lecture assez effrayante. Et en même temps, ça reste son écriture.
C'est un peu le mythe du docteur Frankenstein, voilà, qui crée une sorte de golem, une créature autonome, et puis qui ne maîtrise pas du tout. Et là, il a créé Vernon Sullivan, et Vernon Sullivan le poursuit partout et lui cause du tort et va jusqu'à causer sa perte. Donc il y a quelque chose du mythe de Frankenstein là-dedans, assez étonnant, quoi.
Il y a ce J'irai cracher qui est lourd, qui est long. Il y a ce Vernon Sullivan qui lui colle à la peau et qui lui reste comme ça. Enfin, un double extrêmement pesant. En 48, au hasard des discussions, au hasard de tout plein de choses, avec justement la problématique 1, qu'il n'arrive pas à vendre ses livres, qu'il y a ce scandale qui couve, que quelque part, il voit bien qu'il a démissionné en tant qu'ingénieur. Peut-être parce que aussi, quand on est ingénieur et qu'on a un J'irai cracher sur vos tombes collé à ses basques, ça ne fait pas très bon ménage. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'en mêler. Il révèle qu'il est Vernon Sullivan. Il le dit lors d'un dîner, avec des gens qu'il ne connaît pas forcément, mais notamment quelqu'un, je crois, qui travaille à la préfecture de police. Mais ça n'a peut-être pas tellement d'importance. Qui ou quoi, il le dit. Voilà. Puis après tout, pourquoi pas? Voilà. Parce que lui, il veut passer à autre chose.
De quelle manière, finalement, l'affaire « J'irai cracher sur vos tombes » l'a poursuivie jusqu'au bout de sa vie, Christelle Gonzalo?
Ça a été une histoire qui a vraiment pourri sa carrière littéraire. Ses romans ne se sont pas vendus, ses romans signés Boris Vian ne se sont pas vendus. À la limite, ça l'a pourri parce qu'après, en 1948, il a voulu faire une pièce de théâtre pour essayer de surfer sur la vogue du titre, que cette pièce n'a pas marché, que les journalistes se sont empressés de casser l'entreprise qui, a priori, n'était pas d'une grande qualité théâtrale. Et surtout, en 1953, il est contacté par un scénariste qui s'appelle Jacques Dopagne, qui veut faire un film de « J'irai cracher sur vos tombes ». A priori, Boris Vian n'est pas pour au départ. Il se laisse convaincre. Et pendant 6 ans, ils vont travailler, ils vont essayer de trouver un producteur, et le producteur va revendre sa boîte de production avec le « J'irai cracher ». Et il va se faire complètement déposséder du scénario. Et en même temps, peut-être qu'il y a de l'argent à faire. Après tout, c'est du cinéma. Il y a bien des coûts cinématographiques. Boris Vian avait rendu un scénario de 77 pages. Il reçoit une lettre d'huissier, ou en tout cas un courrier assez désagréable, lui demandant une continuité dialoguée de 150 pages. Il double les interlignes, tout simplement.
Boris Vian va nous dire, à ce moment de la discussion, s'il pense pouvoir être d'accord avec le film tiré de la pièce tirée de son roman.
Je vais vous dire que ce problème se pose d'une façon un peu particulière pour moi, puisque le sujet de ce livre est absolument abstrait. Je pense que tous les bons sujets linéaires sont des sujets abstraits. C'est une histoire de vengeance, pure et simple. Si vous imaginez maintenant, à la lueur des événements, des lynchages récents en Amérique, si vous imaginez qu'Emmett Till avait un frère qui s'était vengé, tel était le sujet de « J'irai cracher sur vos tombes ». Je suis arrivé un peu tôt et je me suis fait donner sur les doigts parce qu'il ne faut pas dire trop fort ces choses-là. Et je les ai dites un peu fort parce que j'étais jeune et puis parce que je ne suis pas très hypocrite.
Et puis parce que c'est plus amusant de dire les choses fortement que de les dire faiblement.
Moi, personnellement, j'étais arrivé à ma majorité sous la troisième. La troisième était plus libérale que la quatrième, qui était plus libérale que la cinquième. Il est hors de doute que maintenant, je n'aurais même pas eu l'idée de concevoir « J'irai cracher sur vos tombes ». Maintenant, il faut faire marcher le bénitier à tout va et respecter le sabre. Mais « J'irai cracher sur vos tombes » date d'une époque où l'on était encore libre.
Qu'est-ce qui fait finalement que ce livre il fait parler? Mais c'est justement parce qu'il est excessif. Il y a des scènes qui sont extrêmement osées. C'est un blanc qui va dans les bordels noirs pour coucher avec des gamines de 12 ans.
Le personnage de Dexter, c'est ça?
Voilà. Qui sont des petites noires qui se prostituent pour quelques dollars. Et là, Vian, il a vu quand même quelque chose. Parce que lui, les Noirs américains qu'il a rencontrés dans les clubs, lui ont parlé. L'ont amené à comprendre ce que c'était cette autre Amérique. Donc lui, en fait, il ne veut que dénoncer. Et les autres derrière arrivent et lui disent « Ah oui, mais c'est horrible ce que tu dis, c'est horrible ce que tu fais et tout. » Et donc, il a plutôt tendance à dire « Mais c'est parce que c'est vous qui ne voulez pas voir. »
À force d'être poursuivi par tous ces dingos de producteurs, il envoie en 58 un scénario dont je vous donne juste le début. Pour moi, c'est une des choses les plus drôles que Vian ait jamais écrite. La caméra découvre un plan de forêt tranquille dans le sud des États-Unis pendant une nuit d'été, plus précisément le 17 juillet à 21h45. Au premier plan à droite, un arbre planté en 1874 par un fonctionnaire des chemins de fer retraité, orme dont la hauteur atteint au bas mot 97 pieds et qui, à 18 pieds du sol, se ramifie en deux branches de grosseur inégale. À 7 pieds de cet arbre, sur la gauche et en retrait de 2 pieds environ, un pin noir d'Autriche en assez mauvais état, au sommet duquel une buse avait fait son nid et qui démarre en raison de circonstances exceptionnelles. Voilà. Et il en fait 4 pages, donc c'est évidemment impossible à mettre en place, à tourner, ni quoi que ce soit. C'est la malédiction, c'est quelque chose comme ça. Mais au fond, il va réussir quand même à rigoler 30 secondes, quoi. C'est pas mal.
Boris Vian était, parmi toutes ses passions, évidemment, le cinéma l'intéressait beaucoup. Alors, un projet quand même de film, c'est tentant, c'est un gros chèque. il voit pas qu'il va vers des nouveaux ennuis extrêmement graves, vraiment, cette fois-là, parce que il commence à être vraiment très fatigué, presque au bout de sa vie, alors qu'il a, quand il va avoir 39 ans, il dit j'ai 38 plus 1, comme s'il y avait un compte à rebours. Il était fatigué comme quelqu'un de plus de 50 ans. Alors bon, il y a ce projet, il se dit, mais tout ça tourne très très mal parce que il est vraiment un enfant de cœur dans le milieu de requins qui est le cinéma. Il est usé, il est fatigué et cette histoire au cinéma l'achève. Et ce fameux Vernon Sullivan qui est plus rien de, qui est vraiment une personne autonome maintenant, continue de lui jouer des tours. C'est vraiment une malédiction. Donc il va quand même à cette projection. Peut-être il hésite. Deux jours avant, il dit à un ami, écoute, là, ça va pas très bien. L'ami le voit reprendre des pilules pour son cœur. C'est de pire en pire.
On est le 23 juin 1950.
Alors, le jour de la projection, il habite Cité Véron avec Ursula et sa nouvelle femme. Et puis, elle lui dit, tu as pris tes cachets. Et ce jour-là, il les oublie, curieusement, alors que vraiment, c'est vital.
Il est perturbé parce qu'il est vraiment épuisé. Parce que il a un traitement très lourd. C'est comme s'il ne pouvait plus jouir de la vie à aucun niveau. Il a déjà eu des œdèmes pulmonaires, les médecins sont inquiets, ses copains sont inquiets. Prévert lui dit toujours, mon pauvre chéri, t'as ton teint d'endive. Donc tout ça est très triste, donc il part là-bas très agacé.
Rappelle-toi nos grands-parents. Si tu ne peux pas te passer d'elle, il faut quitter ma fille. Partout, elle serait une blanche et moi un noir. Si j'étais comme toi, je passerais la ligne. On ne passe jamais la ligne.
Nous avons appris il y a quelques minutes seulement la mort subite de Boris Vian. Boris Vian aurait été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il regardait son film au Marbeuf, son film « J'irai cracher sur vos tombes ». Francis Mercury, vous êtes rendu au Marbeuf, ça tend
oui,
quelque chose.
Boris Vian est mort à 11h, vers 11h. Il assistait à la projection de ce film, c'était une projection de travail. Ce que l'on sait, c'est que Boris Vian semblait très contrarié par certaines images du film. Et il a été dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec certains passages de la réalisation.
Dès les premières images, il se dit, mais c'est pas possible. Il peste. Et puis au bout de, 10 minutes, un quart d'heure, il cherche son air, et il s'écroule. Les lumières sont allumées à grand renfort de cris. La police est arrivée. En fait, c'était un grand branle-bas de combat. Boris était dans le coma profond, dont il ne s'est jamais réveillé. Et en fait, il est mort, je crois, midi moins 10, donc on va dire presque 2 heures plus tard, à l'hôpital Laennec, où sa mort a été constatée par un médecin.
Donc il est mort pendant la projection.
Ah ben, il est mort pratiquement au début, oui. Il est mort, c'est vraiment là, quand je parle du mythe, de l'aspect mythique de cette histoire, de film d'horreur, quoi, presque. C'est ça. Puisque le docteur Frankenstein, on le retrouve mort et on retrouve sa créature sur lui.
Écrasé par sa créature.
On veut absolument que Vernon Sullivan soit le double malheureux de Boris Vian. Vernon Sullivan, une fois pour toutes, n'est pas le double de Boris Vian. Vernon Sullivan est un avatar qu'il construit pour justifier une écriture américaine. Mais Vian reste Vian. Au fond, on peut se demander s'il n'a pas bien compris son erreur dès les années 40 et qu'il s'est bien gardé de devenir Vernon Sullivan.
C'était Docteur Vian et Mr Sullivan, l'affaire « J'irai cracher sur vos tombes ». Avec Nicole Berthold, Christelle Gonzalo, François Roulman et Claire Julliard. Lecture des extraits du roman « J'irai cracher sur vos tombes » par Adama Diop. Archivina, Samantha Schmitt. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Romain Lucians et Swat Boukorsa. Mixage, Valérie Lavalard. Un documentaire d'Hélène Delis et Véronique Samouilov.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous porterons le costume de Napoléon. Mais c'est une autre histoire.